Alors, très content d'être là pour apporter la parole ce matin. Et je voudrais commencer avec une petite question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir vraiment, mais vraiment hâte à quelque chose?
Oui.
C'était déjà arrivé. Moi, je me souviens quand j'étais petit, là où on habitait pas très loin de l'Allemagne. Donc, j'habitais en France, pour ceux qui ne savent pas. J'habitais pas très loin de l'Allemagne. Et de l'autre côté de la frontière, il y avait pas très loin un parc d'attractions. Ça s'appelait Europa Park. On a une petite image là, vous voyez le genre. Europa Park, c'est le genre de mot, quand t'es petit, tu crois que c'est un vrai mot, Europa Park, en plus ça sonne drôle. T'sais. Et moi j'aimais tellement ça, les manèges, les décors, le bateau pirate, etc. Et on y allait de temps en temps, et ça coûtait quand même cher, donc on y allait peut-être une fois par an, voire peut-être des fois ça sautait une année, mais je me souviens que quand on y allait, j'étais comme, ah oh, yes, je comptais les dodos là. Est-ce qu'il y en a qui font encore ça? Des adultes qui comptent les dodos? Ouais, je sais qu'il y en a quelques-uns. Et genre, c'est comme, ah, plus de trois jours, plus de trois jours. Et là, enfin, venait le jour. Et pourquoi je commence comme ça, c'est que ce matin, on va regarder un passage où on a quelqu'un qui est dans le même état d'esprit, quelqu'un qui a vraiment hâte à quelque chose. Et c'est dans le texte qu'on va lire ensemble, au psaume 122, et c'est dans le verset 1. Verset 1 qui dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Et comme j'ai hâte, il compte les dodos, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Le psaume 122 fait partie de 15 psaumes. Dans le recueil, il y a 150 psaumes, mais il y a 15 psaumes, les psaumes 120 à 134, qu'on appelle psaumes des degrés ou chants des montées. Quand vous lisez ces psaumes-là, c'est marqué au début « chants des montées ». Et en fait, ces psaumes-là, c'était des chants que les Hébreux chantaient lorsqu'ils se rendaient en pèlerinage à Jérusalem pour aller au temple. Parce que Jérusalem, c'était là où se trouvait le temple, donc c'était là qu'on allait pour rencontrer Dieu. Et la loi ordonnait que lors des fêtes, lors des principales fêtes, les Juifs se rendent au temple. Et donc, lorsqu'ils faisaient leur pèlerinage, il y avait ce recueil, ces chants démontés qu'on appelle, et ils chantaient ça pendant le voyage. Ils chantaient pas un kilomètre à pied, non, ils chantaient ces psaumes-là. Donc, petite mise en contexte, imagine les gens qui partaient pour un voyage de plusieurs jours, sur la route, et il chantait ces psaumes-là. Et on va lire ce psaume, le psaume 122, ensemble. Donc, chant des montées de David. Vous pouvez le suivre, ça va apparaître à l'écran. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. C'est la règle en Israël pour louer le nom de l'Éternel. » Car là se trouvent les trônes réservés à la justice, les trônes de la famille de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirais que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Est-ce que c'est possible de juste un peu baisser le son? J'ai une petite résonance. Vous m'entendez toujours bien? Oui, c'est bon. Alors, avant de continuer plus loin, on a lu ce texte, on va prier ensemble. Alors Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci pour l'Église, la joie que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Mais ce matin, on est là parce qu'on veut en apprendre davantage sur toi, on veut te connaître davantage. Alors viens parler à nos cœurs, Seigneur Jésus. Viens parler à nos cœurs, Jésus. On a soif d'entendre ta parole, Seigneur. Merci pour chaque mot de ta parole qui est bonne pour nous enseigner. Bonne pour parfois corriger, bonne pour nous instruire, Seigneur. Alors, on s'attend à toi, on veut ouvrir nos cœurs à ta parole, Jésus. Amen. Le titre de mon message de ce matin, c'est « Comment vis-tu l'Église ?» Est-ce que tu es enthousiaste quand tu viens à l'Église ? Est-ce que tu es content de te lever le dimanche matin au lieu de faire une grasse matinée ? Non ? Est-ce qu'il y en a qui sont des dormeurs ? Il y en a qui sont du matin. Moi, je suis du matin. Il y en a qui sont plutôt du soir, grâce matinée, ouais. Quelques-uns, bande de pas spirituels. Non, c'est pas vrai. Comment vis-tu l'Église ? Est-ce que pour toi, il y a cette hâte ? Tu peux dire comme le psalmiste, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ou est-ce que pour toi, c'est une partie, quelque chose de positif dans ta vie, puis c'est une chose parmi d'autres ? Ou est-ce que peut-être même c'est une chose que tu te sens obligé un petit peu ? Ah, oh, c'est dimanche, je peux pas aller à l'Église. Comment est-ce que tu vis l'Église ? Et ce matin, on va regarder ce psaume, le psaume 122, pour regarder ce qui fait que l'auteur se réjouit tant à l'idée d'aller à l'Église. Pourquoi il est tellement heureux d'aller à l'Église ? Et la première chose que je veux faire ressortir, c'est que son enthousiasme provient de son entourage. On va relire les deux premiers versets. Il dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. » Alors notre ami, le pèlerin, qui sera au temple de Dieu, il est enthousiaste. Mais juste avant d'aller plus loin, laisse-moi un peu te décrire cette joie pour que vraiment on puisse capter pourquoi il est content. Il dit « Nos pas se sont arrêtés dans tes portes. » Il faut savoir que les pèlerins venaient de tout le pays d'Israël. Donc, c'était parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et puis, on peut imaginer que la personne arrive, il franchit les portes de la ville. Hein. Il arrive dans une ville fortifiée. Puis il dit, nos pas se sont arrêtés dans tes portes. Il est comme, ah yes, enfin on est arrivé, je suis dans la joie parce que je vais être à la maison de l'Éternel. Mais dans cette joie, il y a vraiment un aspect qui dépasse la joie personnelle, la joie qu'on garde pour soi. Il y a vraiment une joie qui est partagée. Il y a un aspect communautaire. On l'a invité à venir à la maison de l'Éternel. Notez pourquoi il est joyeux dans le passage. Il n'est pas juste joyeux parce qu'il va à la maison de Dieu. Il est joyeux quand on lui dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Il y a un aspect de « ensemble », une invitation de quelqu'un d'autre. Ta joie de te rendre à l'Église, le fait que tu vives l'Église soit comme une contrainte ou soit comme une joie, va vraiment être intimement lié à la qualité des relations que tu y as. Je vais redire ça parce que j'attendais que quelqu'un dise quelque chose, une réaction. Mais je vais le redire. Ta joie de te rendre à l'Église, le fait que tu vives l'Église comme une contrainte ou comme un sujet de joie, va être intimement lié à la qualité des relations que tu y as. On est d'accord pour dire que lorsque tu vis quelque chose tout seul, ça a beau être super, ça a beau être la meilleure expérience de ta vie, si tu es tout seul, cette joie a ses limites. Pendant nos vacances avec Élise, on est allé au cinéma. Et c'était un petit cinéma, une petite salle, un vieux cinéma à Québec. Et on était 5 dans la salle. Il y avait nous, il y avait deux jeunes filles adolescentes. Puis il y avait un monsieur tout seul. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller au cinéma tout seul? Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé. Puis j'ai quand même apprécié l'expérience. C'est quand même agréable. Et à la différence que lorsque je sors du cinéma avec Élise, on va reparler du film. Hein, on va aller dans l'auto, puis là, on va refaire. Si c'était un film qui portait sur un enjeu social, on va en parler, puis on va dire, ouais, ça n'a pas d'allure. Ouais, il faut. Ou si c'est un film drôle, on va se rappeler les meilleures blagues. Hein, tu as déjà fait ça. On se raconte les meilleures blagues. Et si tu as été tout seul au cinéma, c'est cool, tu passes un bon moment, mais une fois sorti, c'est juste dans ta tête que ça reste. Il n'y a rien de plus fatigant que quelqu'un qui est allé voir une comédie qui essaye de te refaire les blagues. Ça ne marche pas. Tu n'es pas un humoriste, tu n'es pas un acteur, ça ne marche pas. Il manque des éléments. Ou encore pire, quelqu'un qui te vole les punchs, hein, les divulgateurs, comme on dit. Ça, c'est la spécialité de ma belle-mère. Elle est excellente là-dedans. Lorsque tu vis quelque chose tout seul, ça a beau être super, ça a beau être fabuleux, si tu continues de le vivre tout seul, ta joie a ses limites, la joie que cela te procure a ses limites. Moi, j'aime aller à l'église le dimanche matin. Bonne nouvelle. C'est quand même bien. Une bonne nouvelle. J'aime les célébrations du dimanche, c'est super. J'aime ça quand on chante ensemble, quand on élève Jésus, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Mais si ta façon de vivre l'église se limite à ça, j'aimerais te dire qu'elle est vraiment incomplète. Pour vivre l'église et pour avoir de la joie à vivre l'église, la joie à aller à l'église, il faut que tu connaisses les gens qui la composent. Il faut que tu sois connu d'eux. Il faut qu'eux te connaissent aussi. Est-ce que lorsque tu n'es pas là, il y a quelqu'un qui va s'en rendre compte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va t'appeler pour te demander comment ça se fait que tu n'étais pas là? Est-ce que ça va? Est-ce que dimanche prochain, on va à l'église ensemble? Ou bien est-ce que ça passe inaperçu? Et mon but ce matin, là, quand je dis ça, ce n'est pas de te victimiser, hein, qu'on se victimise. Hein, personne m'a appelé, les chrétiens sont bombés à parfum. Non, ce n'est pas ça. Si tu retentis une fois tous les 2 mois, les gens ne te connaissent pas et par ce fait, personne n'est assez proche de toi pour avoir la permission de te demander où tu étais. Personne ne va avoir la légitimité parce que ce n'est pas ton ami. Il ne pourra pas te dire « Hey, si on faisait ça, ben on serait juste une gang de religieux. T'es. Hey, tu étais où dimanche dernier? Je t'ai pas vu à l'église, tu faisais quoi ?» Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait une certaine légitimité. Il faut que les gens te connaissent assez, soient assez proches de toi pour avoir la permission de dire ça. Pour avoir de la joie à vivre l'Église, il faut que tu connaisses les gens qui la composent et qu'eux te connaissent. Alors comment on fait ? Comment on fait pour être connu ? Le secret, c'est que ça se passe au-delà du 1h30 de la réunion du dimanche. Dans les Actes des Apôtres, alors que l'Église grandit, alors que le rassemblement devient de plus en plus grand, le rassemblement, au début, ils sont une centaine, ils sont 120, puis rapidement, ils passent à 3000. Grosse explosion, croissance. Et même plus tard, ils vont passer encore à 5000. Et l'Église devient, l'Église, la première Église, là, c'était une méga church, il y avait du monde. Et voici ce qu'on lit dans Actes 2, 41 à 47. On va lire ce petit passage donc, dans Actes. Verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » Grosse journée, hein. Grosse journée. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. » Ok, donc là, l'Église grandit, Dieu est à l'œuvre, il se passe des miracles, des choses extraordinaires. L'Église est en marche. Et on continue. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc d'un côté, on a le grand rassemblement. La grande assemblée, la célébration, l'adoration ensemble, 3000 personnes. Et d'un autre côté, on a l'Église qui se rassemblait dans les maisons. C'est ça qui nous est dit. Donc, dans les maisons, ça veut dire qu'ils n'étaient pas 3000, à moins d'une méchante maison. Et ces deux aspects-là, la célébration et la vie, de se rassembler en toute simplicité, avec simplicité, joie et simplicité de cœur, comme il est dit, ces deux aspects sont essentiels à la vie de l'Église, tant l'un que l'autre. Il y a toujours dans l'Église du Nouveau Testament un aspect public et un aspect privé. C'est bon d'être rassemblé ici le dimanche pour louer Dieu tous ensemble. Je crois vraiment qu'il y a une puissance, comme on l'a fait ce matin lorsqu'on chante Dieu rassemblé, la grande assemblée. On n'est pas 3000, mais on est une assemblée et puis il se passe quelque chose. C'est beau quand on est réunis pour adorer Dieu. Mais il y a des choses que tu ne peux pas faire le dimanche matin. Il y a des choses que tu ne peux pas faire lors de ces rencontres. Et être connu et connaître vraiment les autres, en est une. Autre que, hey, ça va bien, ouais, bon, le Seigneur est bon, amen, bonne semaine. Il faut que ça aille plus loin, tu as besoin de plus. Tu as besoin de, comme on l'a lu dans les Actes des Apôtres, te retrouver d'un commun accord. Pour faire quoi ? Pour rompre le pain dans les maisons et partager la nourriture avec simplicité de cœur. Et ça, je sais que ça soulève beaucoup d'enthousiasme de certains, rompre la nourriture et aussi le café, la bière, etc. Il y a de l'enthousiasme pour ça. Mais il y a aussi mettre ce qu'ils avaient en commun. Et ici, il s'agit de biens matériels. Il y a un moment, au début de l'Église, où les gens ont mis tout ce qu'ils avaient en commun. Et c'est juste un moment unique qu'on voit. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Mais ce que ça signifiait pour moi, ce que ça peut signifier pour nous, c'est quand moi j'ai quelque chose que tu n'as pas, ben on peut le mettre en commun. Si je viens à un moment d'épreuve, mais que toi tu vas bien, tu vas m'aider. Si moi je vais bien et que tu vis un moment d'épreuve, mettons ce qu'on a en commun. Et c'est ça vivre l'Église. C'est ça vraiment vivre l'Église. As-tu remarqué que les gens avec qui tu aimes le plus être, en fait, ce sont les gens qui te connaissent le plus. Moi, j'aime être avec ma femme. C'est la personne qui me connaît le plus au monde. C'est la personne qui me connaît le plus et qui m'aime et qui m'accepte. Alors j'aime être avec elle. Tu es 100% toi-même et tu te sens aimé, accepté. Les gens avec qui tu aimes le plus être sont ceux qui te connaissent le plus. Alors ton enthousiasme pour vivre l'Église va être vraiment lié à la qualité des relations que tu as avec les gens qui la composent. Amen. C'est vraiment le secret de la joie pour vivre l'Église. Et deuxième point à propos de... On revient à notre ami, le pèlerin qui s'en va à Jérusalem pour adorer Dieu. Deuxième point à propos de sa joie, c'est qu'il s'émerveille devant la perfection de l'édifice. C'est amen. Ok, on l'a lu tantôt. Il y en a, tu te dis le premier verset, ok, je comprends, ça marche bien, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mais après ça, le gars, il tripe sur l'architecture de Jérusalem. C'est quoi le rapport ? Peux-tu me dire ? On relit ce passage ensemble, donc versets 3 à 5. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, parce que c'est la loi en Israël. pour louer le nom de l'Éternel. Car là se trouvent les trônes réservés à la justice, les trônes de la famille de David. En fait, il y a ici une image pour le croyant aujourd'hui, pour le chrétien. Une image spirituelle. L'Église est une ville spirituelle composée de pierres que sont les croyants, que sont les chrétiens, qui forment l'édifice, l'Église de Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit plus tôt, à l'époque de l'Ancien Testament, donc l'époque où ont été écrits ces psaumes, les Hébreux devaient se rendre au temple, à Jérusalem, pour adorer Dieu, pour louer Dieu, parce que le temple était l'endroit où l'Esprit de Dieu était présent. Mais voici ce que Dieu a annoncé par l'intermédiaire du prophète Joël, dans Joël 2, 28. Il dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Et c'est ce qui a pris place à la Pentecôte. Désormais, nous n'avons plus à aller au temple, quelque part, on n'a plus à aller à Jérusalem pour adorer Dieu, parce que son esprit est en nous. Désormais, nous sommes le temple. Nous sommes les pierres qui composent l'édifice. Nous sommes le temple, nous sommes ces pierres qui forment un édifice spirituel. Le rassemblement du dimanche matin fait partie de l'Église, mais ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est toi, Karina. L'Église, c'est toi, Daniel. C'est moi. L'Église, ce n'est pas un événement, mais ce sont des personnes. Et des fois, on a de la difficulté parce qu'on est dans un contexte où l'Église, ça a été le dimanche, je vais à l'Église, le reste de la semaine, c'est autre chose. Non, je suis l'Église. Et là, dans notre psaume, le psalmiste, il arrive dans la ville et on peut facilement l'imaginer. Hein. Il arrive, comme on a dit, il s'est arrêté dans les portes, puis là, il regarde autour de lui, il dit « Waouh, c'est donc ben beau, hein, t'as déjà été dans un monument, puis là, t'es comme émerveillé par l'architecture, par la créativité de la personne qui a construit ça. Tes murs forment un ensemble parfait, c'est ce qu'il dit. Il y a plein de monde rassemblé, les tribus d'Israël montent, il y a du monde, c'est une ville où il y a de l'affluence. La ville des rois où sont rendus les jugements, waouh, il se passe de quoi ? Il est juste émerveillé. Et je crois qu'il y a dans l'attitude du psalmiste un respect et une admiration dont nous devons nous inspirer. Au même titre qu'il arrive à Jérusalem, qu'il regarde autour de lui et qu'il est émerveillé, soyons prompts aussi à célébrer, à nous émerveiller de ce que Dieu fait dans son Église, donc dans chacun de nous, avec chacun de nous. L'Église n'est pas parfaite. Mon point, c'est il s'émerveille devant la perfection de l'édifice. L'Église n'est pas parfaite. Parce qu'en fait, l'Église ne peut être parfaite qu'à la hauteur de ceux qui la composent, nous. Mais bien qu'elle ne soit pas parfaite, elle a été voulue par Dieu. Dieu y est présent, il agit puissamment. Et parfois, nous avons besoin de changer de perspective pour voir l'Église avec le regard bienveillant de Jésus. Jésus qui voit son épouse. Jésus qui voit l'Église comme étant son épouse. Parfois, nous voyons l'Église comme ceci. On voit l'Église comme ça. C'est beau, hein ? Ouais, c'est de là. Ben, effectivement, c'est de là. Ouais. C'est un peu, on regarde avec nos yeux, puis on voit l'Église, on essaye de faire des affaires, on essaye de faire des choses, puis c'est pas toujours ça. Mais on a besoin de changer de perspective pour voir l'Église comme Dieu la voit. Et tu peux faire jouer ça. Changer de perspective, voir l'Église comme Dieu la voit. Il y a un punch, ça s'en vient. Comme une œuvre d'art. On a besoin de changer de perspective pour voir l'Église comme Jésus la voit, son épouse, pure et belle. C'est ça exactement. Je veux t'encourager à célébrer ce qui prend place dans l'Église. Commencez à voir l'Église pour ce qu'elle est vraiment, l'Église sainte de Jésus-Christ, voulue par Dieu, où les chrétiens rassemblés sont imparfaits. Ils ne font pas toujours les choses à la perfection. Il y a des affaires que on essaie, mais ce n'est pas toujours... Mais ils sont là dans un désir de représenter Christ, d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui doit être célébré. Et je veux t'inviter à t'examiner ce matin. Est-ce que je passe plus de temps à observer, à critiquer ou à célébrer ? Et mon point là, ce n'est pas juste moins critiquer. C'est bien, il faut moins critiquer, mais plus célébrer. C'est quand la dernière fois que tu es allé voir un des musiciens et tu as dit « Hey, tu as bien joué ce matin ?» C'est quand la dernière fois que tu as remercié un des moniteurs ou monitrices de l'école du dimanche ? C'est quand la dernière fois que tu as remercié un des bénévoles qui, semaine après semaine, des fois dans l'ombre, des fois des choses, pas nécessairement en avant, mais qui te sert semaine après semaine ? Je veux vraiment t'inviter à t'examiner puis à t'émerveiller, à t'émerveiller de la perfection de l'édifice. Dieu a voulu l'Église comme ça, composée de chacun de nous imparfait, mais on désire le servir, on désire être la lumière dans ce monde. Contemple ce que Dieu fait dans la vie de ton frère. Réjouis-toi du fait qu'il y a une génération qui se lève pour servir. Il y en a d'autres qui se lèvent pour servir. Amen. Troisième raison de se réjouir du psalmiste, c'est qu'il est engagé par amour pour l'Église. On va continuer la lecture au verset 6. « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. » Une des raisons qui procure la joie, qui procure de la joie, de l'enthousiasme au psalmiste lorsqu'il se rend au temple, c'est qu'il y a un engagement. Il y a un amour pour la maison de Dieu et pour ceux qui la composent, qui le poussent à une constance dans la prière, dans les actions qu'il pose. Il prie pour la paix de ses frères, de ses amis. Il dit « Je fais des vœux pour ton bonheur ». Et il faut comprendre ici, le psalmiste dit « Je fais des vœux pour ton bonheur ». Il faut comprendre que faire un vœu pour un hébreu de l'Ancien Testament, ça n'a pas la même valeur que pour nous aujourd'hui. Il ne s'agit pas ici d'une carte d'anniversaire, une carte de retraite ou bien du bonheur, la santé, la famille. Ce n'est pas ça, là, puis qui n'a aucune conséquence par la suite. Non, lorsque quelqu'un faisait un vœu, c'était une promesse, c'était un engagement solennel fait devant Dieu. C'était quelque chose de vraiment sérieux, dans laquelle la personne était par la suite engagée. Alors quand le psalmiste dit « Je fais un vœu pour ton bonheur », ça veut dire « Je suis engagé, je suis impliqué à œuvrer, à prier pour la paix dans ta vie, pour ta protection et à agir. Je suis engagé pour ton bonheur, personnellement, pour ton bien-être. » Et ici, c'est vraiment l'idée de protection. Je suis engagé pour toi pour que tu sois protégé. Parce que comme on le lit, vous l'avez vu, hein, il prie pour la paix. Il dit « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix règne dans tes murs. Je dirai que la paix règne chez toi. » Et si on parle de paix dans une ville comme Jérusalem, une ville fortifiée, c'est qu'il y a une possibilité de guerre, une possibilité d'être attaqué. Donc c'est vraiment l'idée de « Je vais me tenir pour ta protection, ta sécurité. » Et il y a une puissance pour l'Église lorsqu'on se tient engagé l'un envers l'autre. C'est comme une protection, c'est comme un rempart autour de nous. Oui, Dieu nous protège, oui, Dieu est avec nous, oui, Dieu est comme un guerrier qui se bat pour nous. Mais il y a une puissance dans l'Église. Lorsqu'on est engagé l'un envers l'autre, il y a une protection qui s'installe. Tu n'es pas seul face à l'ennemi parce que tu as quelqu'un qui prie avec toi, qui va te conseiller, qui va te parler, qui va te fortifier dans les moments difficiles. Il va être là, tu n'es pas seul pour affronter les situations de défi, les tentations. C'est vraiment quelque chose de puissant. Et c'est quelque chose qui, lorsque tu es engagé envers l'autre, ça te procure de la joie. Tu fais partie de ce mouvement de l'Église, tu fais partie de ceux qui protègent les autres, de ceux qui font avancer l'Église. Depuis que Élise et moi sommes pasteurs ici, du site Nouvelle Vie Charlevoix, il y a un homme de l'Église Nouvelle Vie qui nous écrit régulièrement des messages par Messenger. C'est un homme qui s'appelle Denis, c'est pas notre Denis national, local. Et en fait, régulièrement, il nous écrivait des messages et c'était toujours vraiment positif et encourageant. Et au début, tu sais, c'était quand même un peu surprenant, quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Il nous écrit et vraiment dire qu'il prie pour nous, qu'il fait des choses. Et on ressentait vraiment une affection et même un enthousiasme particulier à notre égard. Et c'était spécial. Et même une fois, il est venu ici à la Malbaie. Donc, c'est quelqu'un qui vit plus dans la région de Montréal. Et il est venu nous visiter ici à la Malbaie. Il était vraiment heureux d'être là puis de nous rencontrer. Élise et moi, tu sais, en vrai, on se parlait un peu par Messenger. Et à cette occasion, on a pu discuter avec lui. Et ce qu'il nous a dit, c'est que Dieu lui avait vraiment mis à cœur Dieu lui avait mis à cœur les pasteurs des différents sites de l'Église Nouvelle Vie. Et depuis ce temps-là, il priait pour eux, il les soutenait, les encourageait. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Denis est engagé envers nous, envers Élise et moi, et les autres pasteurs aussi. Il est engagé pour notre bien. Il est engagé à prier pour la protection, pour la faveur et la paix dans nos vies, dans nos ministères. Et plusieurs fois, il nous a écrit pour nous encourager. Puis là, c'était des paroles qui tombaient vraiment à point pour des situations dont il n'avait aucune idée. Et lorsqu'il est venu nous visiter, même, il nous avait acheté des cadeaux et ça, c'était vraiment bienveillant. Il est engagé envers nous, impliqué dans notre vie. Et ce qui se dégage de ça, C'est une joie, c'est un enthousiasme, un attachement qui va au-delà de juste l'habitude. C'est pas un attachement, ben, je le fais parce que je dois le faire, c'est pas juste mon rôle, c'est pas ma tâche. Non, il est engagé envers nous, il y a une joie, un enthousiasme qui se dégage. Une chose qui va te procurer de la joie pour venir à l'église. Et encore plus de joie, si tu as de la joie, c'est d'être engagé dans la vie de quelqu'un d'autre. Et alors aujourd'hui, c'est la rentrée. C'est la rentrée, on a nos groupes de semaine qui vont reprendre. Qui c'est qui a déjà participé à un groupe vraiment, je ne vais mettre personne sur le spot. On a nos groupes qui reprennent à partir de cette semaine. Et je crois vraiment que ces groupes-là, ces petits groupes, sont quelque chose d'essentiel à la vie d'église. C'est l'endroit où non seulement tu vas pouvoir aller plus loin par rapport à ce qui a été enseigné le dimanche, tu vas pouvoir poser tes questions, parce que je pense que des fois on a des questions sur les prédications, tu vas pouvoir échanger avec les autres, mais surtout c'est là que tu vas pouvoir créer des liens plus profonds. C'est là que tu vas pouvoir développer des amitiés plus fortes, porter un frère, une sœur dans la prière, échanger, partager tes défis et ainsi être engagé envers quelqu'un. Alors, je veux vraiment t'encourager à joindre un petit groupe. Vraiment, je veux t'inviter à prendre la question et ensuite à t'y engager avec sérieux. Parce que c'est, pour moi, c'est bien plus qu'un programme d'église. Ce n'est pas juste une activité. Je crois que c'est vraiment une partie essentielle de l'église et c'est un excellent moyen de vivre l'église. Alors, cette session, on va avoir des petits changements dans nos petits groupes. Nous allons avoir deux groupes mixtes. En fait, un ici et un à Bessabol, donc hommes et femmes ensemble, je pense que ça va être vraiment bon, ça va être vraiment positif. Donc il y aura un groupe, chaque groupe aura lieu le mercredi soir à 18h30, et le groupe de la Malbaie, ça va être ici même, à 18h30 les mercredis soirs avec Céline, ça va être animé par Céline, Céline de Bonville. Et de l'autre côté, Abbé Saint-Paul aussi les mercredis soirs, je l'annonce aussi parce que je sais qu'il y en a qui habitent à mi-chemin, qui peuvent être intéressés par les deux. Ça va être moi-même qui va animer le groupe et on va se réunir chez Gaëtan et Yves. Vous aurez l'adresse qui vous sera communiquée. Et ces groupes-là, en quoi ça consiste? Si tu n'as jamais assisté, c'est ce qu'on appelle des groupes partage. Le principe est très simple, c'est d'approfondir et de revenir sur le message du dimanche précédent. En fait, l'animateur a quelques questions, puis on échange, simplement. On échange, il n'y a pas de discours, il n'y a pas d'enseignement qui est apporté, mais on échange. Puis on cherche à mettre en pratique le message qui a été apporté. Et ensuite, on a un moment d'échange sur nos défis, sur nos sujets de prière ou des encouragements. Et ensuite, un temps de prière tous ensemble. Donc moi, je me réjouis vraiment de ces groupes-là. Je crois vraiment que ça va être un peu différent. L'année dernière, on avait un groupe d'hommes et de femmes ici à la Malbaie. Là, ça va être mixte, mais je pense que ça va vraiment apporter quelque chose de positif et ça va être bénéfique pour chacun. Alors, je vous encourage à vous inscrire à la fin de la réunion. On a Yolande qui est au kiosque d'information qui va prendre les inscriptions. Et si jamais quelqu'un est intéressé, vous pouvez faire passer le message. Si quelqu'un est intéressé qui n'est pas là ce matin, il peut s'inscrire encore sur le site de l'église. Donc, je vous invite vraiment à prendre cette invitation que je vous lance au sérieux et à vivre l'église au-delà du cadre de nos réunions le dimanche matin. Amen. Amen. Je vais terminer en prière. Je vais inviter les musiciens à s'approcher, si vous voulez bien venir, Mario et Daniel. Fait que ce matin, si j'ai bien compris, il y a plusieurs personnes qui vont venir vous remercier et vous féliciter pour votre talent. Seigneur, on te remercie pour ton Église, Seigneur. Merci pour ce que tu y fais, Seigneur. C'est tellement un plan parfait que tu as prévu. Une façon parfaite de poursuivre ton œuvre, Seigneur, de faire vivre ton œuvre, que de te servir de chacun, Seigneur. On est ton Église et on veut être plus semblable à ce que tu as prévu, Seigneur. On veut être, ton Église, il y a des failles, Seigneur, il y a des imperfections, mais c'est celle que tu as voulu, Seigneur, et on veut t'honorer, que ton Église soit belle, que ton Église soit pure, que ton Église soit à ta ressemblance, Seigneur Jésus. Donne-nous d'être de plus en plus présents les uns pour les autres, Seigneur, de plus en plus. Je te prie pour des relations qui puissent se développer, Seigneur. Que personne ne prenne l'habitude de venir ici, Seigneur, incognito, puis de repartir de la même façon, Seigneur. Que des relations de qualité puissent prendre forme dans cette Église, Seigneur Jésus. te prie pour celui qui se sent peut-être à l'écart, Seigneur, qui puisse se sentir accueilli, qui puisse oser, Seigneur, franchir un pas de plus, Seigneur, et que vraiment chacun puisse grandir, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans cette église, Seigneur. Merci pour les enfants ce matin qui ont une belle matinée, Seigneur, et qui eux aussi vivent ces relations, Seigneur. C'est tellement essentiel, Seigneur, et souvent c'est ça qui nous tient attachés à toi, Seigneur, qui nous tient attachés à ta maison, Seigneur. Alors, sois glorifié, Jésus, Seigneur. Sois élevé par ton Église, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans la région de Charlevoix. Merci aussi pour ce que tu fais dans la vie de chacun ici, Seigneur. Sois glorifié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer avec ce chant.